La première,
11h midi, le samedi,
bientôt à table,
avec Sophie Moulis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre table gourmande du jour. Bientôt à table, c'est reparti jusque midi. Bonjour Carlo de Pascal.
Bonjour Sophie Moulis.
Vous allez bien en forme?
Toujours en forme.
Allez.
J'adore le sujet du jour.
Alors effectivement, au menu du jour les amis, l'histoire à la carte avec notre confrère de France Info, journaliste écrivain Bernard Thomasson. Notre homme s'en est allé à la recherche des origines des plats qui font des fonds notre patrimoine gourmand, depuis les coquillettes au jambon, Carlo, que vous adorez, à la quiche lorraine en passant par la seule meunière, nous tenterons de découvrir les histoires insolites qui se cachent derrière ces mets de notre quotidien. Et puis d'un coup de fourchette, nous passerons dans les fonds marins avec notre spécialiste du jour, Monsieur Philippe Emmanueli. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes évidemment un habitué de l'émission, on vous a déjà reçu pour nous parler de la cuisine des champignons. Vous avez beaucoup écrit aussi sur la cuisine de la mer, fiche à cartonner, hein, cet ouvrage publié chez Marabout. Et aujourd'hui, on vous retrouve au fourneau d'une table emblématique et bruxelloise, Crab Club.
C'est ça.
Voilà. Néo-emblématique.
Néo-emblématique, c'est tout nouveau.
C'est déjà emblématique.
Oui, mais c'est vrai, c'est devenu un incontournable de la gastronomie bruxelloise. Cette cuisine de la mer, Philippe Emmanueli, vous allez nous la faire découvrir jusque midi. Vos questions, vos réactions sont évidemment attendues via le site lapremière.be et via notre page Facebook. Bientôt à table. Du bon, du très très bon, c'est jusque midi.
Bientôt à table sur la première.
L'histoire à la carte, une épopée qui nous emmène à la découverte de 30 histoires formidables, croustillantes, des plus grandes recettes de notre cuisine. On en parle avec le journaliste Bernard Thomasson. Bonjour Bernard.
Bonjour Sophie.
Bonjour cher collègue.
Bonjour.
Je devrais dire cher collègue, hein, puisque vous êtes évidemment le producteur et l'animateur de cette émission emblématique. Elle aussi, l'histoire à la carte que vous co-animez avec le chef Thierry Marx sur France Info.
C'est exact. Ouais. Depuis 2 ans maintenant, nous avons lancé ce programme sur France Info, ce qui n'était pas évident parce que c'est un produit qui fait un pas de côté par rapport à l'actualité qui est vraiment le cœur de France Info, mais c'est aussi l'actualité, la cuisine, la gastronomie, les gens aiment manger et l'histoire surtout, car c'est cela qui est passionnant. Je connais Thierry depuis de nombreuses années et un jour il me dit « Est-ce que tu sais pourquoi Louis XIV mangeait du lièvre à la royale, ce lièvre si fondant ?» Je lui dis « Parce qu'il est très cuit, recuit. » Il me dit « Oui, bien sûr, mais pas seulement, c'est parce que Louis XIV était édenté. » Et moi j'ai envie, me dit-il, de raconter l'histoire des plats qui naissent dans la société, dans l'évolution de la société, et pas d'un coup de baguette magique comme ça, c'est pas simplement une alchimie d'ingrédients. La cuisine et la gastronomie, c'est aussi une histoire qui est portée par les peuples.
La cuisine, c'est de la culture, à votre sens, Bernard Thomas?
Absolument, absolument. La cuisine, c'est de la culture. D'ailleurs, le moment culinaire, le moment de dégustation est un moment de partage où l'on échange à propos de ce que l'on mange, bien sûr, mais où l'on peut aussi échanger plein de choses sur la culture, sur les événements, etc. Et puis, ça, c'est un marqueur de la société et de l'histoire de la société. C'est un marqueur culturel. Il y a des cuisines qui sont plus pauvres que d'autres, des cuisines qui sont plus adaptées ou plus évoluées que d'autres. Donc, la cuisine est un élément formidable de la culture et très important.
Alors, dans cet ouvrage, l'histoire à la carte, publié aux éditions de La Martinière, vous évoquez les histoires drôles, insolites et croustillantes, effectivement, de ces plats devenus tout à fait communs dans notre patrimoine gourmand, que l'on soit d'ailleurs français ou belge. Vous parliez il y a un instant du civet à la royale. Donc, Louis XIV en était absolument friand. Mais édenté, il ne pouvait manger que des préparations coupées.
Il
le mangeait à la petite cuillère.
C'est du Nutella de lièvre.
Pour tout vous dire, Louis XIV avait de très gros problèmes de dents. J'ai retrouvé dans les archives de la Bibliothèque nationale François Mitterrand et dans les archives internet de notes de médecins de l'époque. Il s'est fait arracher les molaires de sa mâchoire supérieure après des douleurs dans la campagne des Flandres, les canines de la joue droite après d'abominables douleurs au tournant du siècle, et puis alors les dernières dents sont tombées peu avant sa mort. Donc c'était certes l'homme le plus puissant en Europe à l'époque, un souverain de la flamboyance, du raffinement, roi du paraître, de la prestance.
Mais en même temps,
c'était un sans-dents. Voilà, ironie de l'histoire, quand même.
Oui, exact.
Un sans-dents à la tête d'un grand règne et d'un grand pays comme le nôtre. Donc il avait demandé, parce qu'il était un fin chasseur aussi, il adorait la chasse, il adorait le gibier, il avait demandé à ses cuisiniers d'inventer un plat. Donc on cuisait et on reconstituait le civet de lièvre, on le farcissait, on le reconstituait, on le coupait en tranches, il le mangeait à la cuillère.
Alors, vous évoquez évidemment l'histoire assez jolie de la fameuse pêche Melba, cette belle pêche blanche pochée dans un sirop. Hein. Il y a une histoire liée à une formidable cantatrice, la Melba, hein, soprane, qui a fait les plus grands opéras du monde, le Palais Garnier, le Metropolitan à New York ou la Scala de Milan. Racontez-nous cette histoire.
Hélène Porter Mitchell, c'est son vrai nom. Elle est née à Melbourne, dans la banlieue de Melbourne, et c'est effectivement une grande cantatrice qui a chanté dans le monde entier, surnommée la Melba. Melba, d'ailleurs, c'est un diminutif de Melbourne. Et le 15 juin 1894, elle chantait à l'Opéra de Londres, à Covent Garden, et là, elle a invité, parmi les fauteuils d'orchestre, le type qui lui faisait à manger tous les jours, à l'hôtel Savoie, où elle résidait, juste à côté, juste en face de l'Opéra. Et ce type, c'était pas n'importe qui quand même, c'était Monsieur Escoffier. Auguste Escoffier, l'un des grands chefs de ce début du 19e siècle. Et alors, c'est Escoffier qui raconte la suite lui-même. Donc, on a retrouvé la lettre, hein, puisque la lettre existe, il l'a écrit de sa main. Il dit dans cet opéra, apparaît un signe, et Madame Melba donnait le lendemain un petit souper avec des amis, dont le duc d'Orléans. Et j'ai conçu ce dessert en taillant un bloc de glace, car je voulais rappeler le signe qui apparaissait dans l'opéra qu'elle chantait. C'était Lohengrin qu'elle chantait quelques jours auparavant. Et donc, il a créé cette glace dans un superbe signe avec dans les deux ailes une timbale en argent. Il a couvert le fond de la timbale avec de la glace à la vanille et il a disposé des pêche à chair blanche, chair blanche très importante,
et de la framboise,
et tendre, et voilà, et un coulis de framboise, des framboises un petit peu, une purée de framboise fraîche. Voilà comment est née la pêche Melba, parce qu'il faut dire qu'Escoffier en pinçait pour les belles dames. Il avait déjà inventé la poire Belle Hélène pour une autre cantatrice 30 ou 40 ans auparavant. Et là, il avait un petit coup de... Voilà, il était un peu amoureux de Madame Melba.
Mais je ne savais pas que...
Si on peut s'arrêter deux secondes sur Escoffier, parce que c'est quand même intéressant, c'est qu'aujourd'hui, où les chefs sont devenus des vraies vedettes, peut-être qu'Escoffier a été le premier d'entre eux. C'est-à-dire que les gens, à l'époque, allaient où Ritz et Escoffier étaient et les suivaient partout. Il a vraiment codifié la cuisine, mais il n'a pas codifié la cuisine pour la nuit des temps. C'est les écoles qui ont cru après qu'il avait codifié la cuisine pour la nuit des temps. Il l'a codifié pour lui et pour ses élèves et pour les cuisiniers du temps. Et il a fait une œuvre d'artiste culinaire. C'est probablement le premier dans toute l'histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Bernard.
C'est vrai. Il a théorisé la cuisine. Il a aussi simplifié beaucoup les recettes, allégé les plats. Il a codifié les gestes précisément pour réaliser ces plats. Il a adapté les mets à leur temps parce qu'il pensait que la cuisine, et vous avez raison. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on fait dans l'histoire à la carte. C'est-à-dire qu'on raconte que la cuisine évolue avec la société. Il disait un plat ne peut pas être fixé. Il évoluera avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles mœurs qui changent, etc. Il a aussi fait des choses très importantes. Pour la cuisine et pour les cuisiniers, il a inventé les brigades, il a transformé les cartes, avant c'était des très longues cartes, il a fait des menus à prix fixe par exemple, il a aussi beaucoup lutté et travaillé pour les conditions de ses employés, de ses ouvriers, c'était un humaniste, c'était un homme très humain, et quand vous disiez qu'on allait manger chez lui, c'est vrai qu'il a été avec Monsieur Ritz, le créateur de grands hôtels, et donc il a ouvert de très grands hôtels, dont le Ritz évidemment à Paris, le Savoie à Londres qu'on évoquait à l'instant avec la pêche Melba, et c'était la naissance aussi à cette époque-là de la mode du tourisme de luxe. C'était les premiers grands touristes qui se déplaçaient et on allait effectivement dans ces hôtels à la fois pour le lieu et pour manger la cuisine de M. Escoffier.
Alors, des hôtels de luxe aux hamburgers, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir. Mais en même temps, ce n'est pas si anachronique puisqu'aujourd'hui, de plus en plus de palaces proposent le hamburger version gastronomique, leur carte, notamment à Paris, il y en a une flopée. Alors, vous parlez de cette histoire du hamburger qui vient du nom de la ville d'Hambourg en Allemagne. Déjà, pourquoi cette ville et pourquoi ce hamburger sont-ils liés, Bernard Thomasson?
On dit souvent que l'hamburger vient des États-Unis.
Oui.
Je sais pas si c'est quand même la. C'est la réputation qu'on donne.
C'est les immigrés allemands qui l'ont.
C'est ça que je voulais vous faire dire. C'est que les gens pensent aujourd'hui que l'hamburger, c'est américain, parce que McDonald's, parce que, etc.
Non, c'est comme la saucisse, oui.
Pas du tout, voilà. Il y a eu un aller-retour transatlantique, si on peut dire. Et même, alors là, nous, on a fait remonter l'histoire un peu plus loin. Bon, il y a une part de légende et puis il y a une part aussi de mystère et on a une volonté de donner un peu de rêve aux gens. Mais on dit qu'à l'époque de Gengis Khan, déjà, on mettait des morceaux de viande sous la selle.
On
peut peut-être juste rappeler le fondateur de l'Empire mongol, pour un petit peu resituer rappeler quand même, Carlo.
Et donc, alors, je ne sais pas si c'était très goûteux ou pas, mais la viande était un peu plus tendre, et surtout, il pouvait la saisir en chevauchant, donc c'était peut-être les premiers hamburgers. Ouais. En tout cas, cette viande est arrivée à Moscou quand le petit-fils de Gengis Khan a envahi Moscou, a amené avec lui cette viande, et les Russes ont adoré. Ils l'ont appelé le steak tatar, puisque c'était les Tatars et les Mongols. C'est devenu le steak tartare, la boulette qui, par les juifs vers l'Europe centrale, est devenue la fameuse boulette juive, qui ensuite est devenue... Alors, c'est vrai que quand vous dites les villes allemandes, il faut savoir qu'en Allemagne, il y a beaucoup de noms de plats qui sont dérivés de villes. Par exemple... Le Berliner, c'est un beignet aux fruits, aux pommes. Qui
est devenu la boule de Berlin chez nous, à un certain moment, oui.
Le Bremer, c'est un poisson. Mm. C'est la région de Brême, port de pêche. Le Frankfurter, c'est la saucisse, évidemment. Et donc, le Hamburger, c'est l'endroit où on faisait cette boulette de viande. Et c'est surtout de Hambourg que partaient les exilés, les migrants européens qui allaient s'installer et découvrir l'Amérique. Et pour ne pas les dépayser, on mettait sur le bateau ces boulettes de viande, donc appelées des hamburgers, enfin peut-être pas déjà à l'époque, mais quand même des hamburgers. Et arrivé aux États-Unis, on leur fabriquait encore ces boulettes. Et un jour, un type a eu l'idée de mettre du pain au-dessus et en dessous. C'était un Hollandais qui était aussi émigré aux États-Unis. Et c'est ainsi que le hamburger est devenu à la mode américaine avec ses deux tranches de pain et qu'il est revenu ensuite en Europe.
Mais souvent, les plats, Bernard, souvent les plats partent de leur pays, font des allers-retours. Le pastrami des New-Yorkais, c'est un plat aussi de cuisine juive d'Europe centrale que les Grecs et les Ottomans connaissaient aussi. Mais je trouve que quand un plat et comme ça remanié par une autre culture, souvent il s'enrichit, devient quelque chose de... On oublie le plat d'origine et ça devient un truc encore plus formidable.
C'est une belle leçon sur les couleurs du monde, la mixité du monde, l'enrichissement qu'on apporte en allant vers les autres, en allant chez les autres. C'est intéressant de dire cela aujourd'hui et dans le contexte qu'on connaît.
Oui.
Et puis ce que vous dites est aussi une pierre que vous apportez à Auguste Escoffier qui ne disait pas autre chose. La cuisine évolue avec les mœurs, avec les sociétés, avec les endroits où elle se trouve, avec le temps et les nouvelles technologies.
Et c'est ce qui fait évidemment toute sa richesse. Alors dans cet ouvrage, Bernard Thomasson, L'histoire à la carte, vous évoquez aussi la folle aventure des coquillettes jambon plat, emblématique, vous l'écrivez, des 30 glorieuses. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période absolument florissante, période de consommation de masse? Pourquoi ces coquillettes jambon sont-elles devenues à ce point-là incontournables?
Bien, tout simplement parce que la société change à l'époque, en France, en Europe d'ailleurs, donc globalement. Les yéyés secouent une France qui est en profonde mutation. Alors, les 30 Glorieuses, vous le disiez, relancent l'économie après-guerre. Les mœurs entament aussi leur évolution. Les concerts font leur apparition. Édouard Leclerc commence à ouvrir ses premières épiceries en achetant directement aux producteurs. Ouais. C'est-à-dire qu'il évite les... et comme ça, il gagne 30% en évitant les intermédiaires. C'est ce qui a fait son
succès.
Et puis Carrefour aussi à Embrayer.
Le premier Carrefour qui naît à Annecy en 1960. Il est toujours au même endroit. Et donc, le plat emblématique de l'époque, c'est les coquillettes de jambon. Pourquoi? Parce que, d'abord, ça ne coûte pas très cher, ça nourrit bien. C'est rapide à préparer pour des mamans qui travaillent de plus en plus.
C'est la période des femmes libérées aussi, on ne cuisine plus, on vit, c'est un petit peu ça.
Voilà, on essaie de vivre. Mmh. L'économie familiale est complètement bousculée et donc et les marques commencent à naître et donc les marques se saisissent aussi de cette évolution de la société et les premières marques de pâtes arrivent. Alors j'en citerai pas sur votre antenne.
Vous pouvez en Belgique, on est très heureux.
En Belgique, on peut boire à la télé.
Lustucru, c'est ça. Vous voulez parler de Lustucru?
Il y a Lustucru, il y a les Panzani, etc. Qui sont les Panzani, je crois, qui a été le premier à créer le sachet transparent où on voyait à l'intérieur. Ouais. Donc c'est vraiment très intéressant.
Panzani, qui est donc une marque française, malgré son...
Oui, c'est français, ça a toujours été français. La coquillette, c'est quand même très français. C'est marrant parce que
c'est vrai, vous avez raison.
En Belgique, on la connaît peu. Ouais, les pâtes, le macaroni, on connaît le macaroni jambon fromage. Et alors, sous le terme macaroni, on peut glisser tout ce qu'on veut parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur ce que c'est. Mais la coquillette, ça, c'est vraiment franco-français.
Oui, cela dit, c'est vrai que c'est bon. Bien préparé, ça peut être bon.
Alors,
avec un bon petit jambon de Bayonne, là, comme ça.
Non, plutôt du... Moi, je préfère du jambon cuit.
Ah oui?
Oui, je préfère. Ah bon. Je ne sais pas ce qu'en pense Bernard, mais la coquillette jambon. Et on a un Français avec nous, Philippe Emmanueli.
Moi, je fais aussi jambon cuit, surtout que la recette que propose Thierry Marx et qui est en fait une reprise, une recette d'Alain Ducasse, qui est très originale. Moi qui ne suis pas un grand cuisinier, je réussis à la faire et c'est délicieux. En réalité, on prépare les coquillettes comme du riz en risotto. C'est-à-dire que dans la casserole, on met un fond d'huile, de graisse, pour faire revenir des oignons, rissoler les morceaux de jambon. Moi, je découpe mon jambon en petits carrés, je le fais rissoler. Et je mets mes pâtes au fond, mes pâtes crues. Et à côté, j'ai préparé un petit bouillon de volaille. Tout bêtement, je mets un cube dans un litre d'eau. Et petit à petit, à la louche, on met une louche de bouillon et on attend que les pâtes absorbent. Et on recommence ainsi comme un risotto. Et en goûtant, on trouve le bon moment où la pâte est vraiment délicieuse. Et alors, elle est vraiment beaucoup plus fondante.
Alors pour l'histoire,
qu'elle est cuite à l'eau.
Pour l'histoire, Bernard, c'est que effectivement, c'est un plat d'Alain Ducasse. Mais le sud de l'Italie, notamment les Pouilles, font des pâtes à la manière du risotto depuis toujours. Mais plutôt avec des légumes, c'est-à-dire qu'on démarre la cuisson des pâtes, on les poche un tout petit peu, et puis on les transfère dans la casserole où se trouvent les haricots ou les brocolis ou même les patates, et on continue à rajouter de l'eau de cuisson pour finir les pâtes. Et c'est quand même, Sophie, vie. Bien mieux que cette ignoble one pot pasta qu'une blogueuse américaine.
On met tout en une fois.
À froid au début et il faut dénoncer le one pot pasta.
Non au one pot pasta. Voilà. Vous êtes d'accord avec nous, Bernard?
Non, c'est pas tout préparé. On part d'une casserole, on met tout dedans, on met de l'eau froide sur les oignons, les pâtes et les tomates et on allume le feu. Cette blogueuse, son prénom c'est Martha, j'ai oublié son nom.
Bon, Martha ne viendra jamais dans Bientôt à table, ça c'est déjà assuré. Martha, si vous nous écoutez, c'est terminé pour vous.
Essayez les coquillettes risotto, c'est délicieux.
Ah oui, effectivement.
Cela dit, dans votre ouvrage, Bernard Thomasson, vous évoquez Jules Gouffet, son célèbre livre de cuisine. Lui, il réalisait une timbale de nouilles au jambon, nouilles, beurre, fromage de parmesan et jambon de Bayonne. Donc finalement,
la timbale est scoffée aussi.
J'étais quand même pas si loin dans mon idée du jambon de Bayonne, Carlo.
Non, juste un mot sur Jules Gouffet, parce qu'on peut l'évoquer, c'est un type extraordinaire. Il a été cuisinier, il est parti à la retraite et le Jockey Club l'a rappelé en 1863, je crois, pour devenir chef de ses cuisines. Et en 67, il invente la blanquette de veau. Alors, il n'invente pas parce que la blanquette existait. On faisait déjà revenir du veau, on faisait bouillir le veau dans les campagnes depuis très longtemps. C'est ses plats mijotés depuis toujours qu'on mangeait froid 2-3 jours après avec les petits oignons grelots. Mais lui, il a eu l'idée de pocher le veau avant de le faire mijoter. Ouais. Donc on fait pocher le veau, ça lui donne une tendreté bien meilleure, extraordinaire, un goût subtil. Et ensuite, simplement, on le fait mijoter avec les petites carottes, etc.
Et le riz. Jules Gouffet, en plus, il a fait œuvre de vulgarisateur. Parce que si je ne me trompe, là je gratte un peu dans mes souvenirs, mais il y avait le bouquin pour les pros et le bouquin pour les ménagères.
Le livre de cuisine.
Il voulait amener la grande cuisine auprès de la bourgeoisie surtout. C'était pas encore populaire, c'était déjà l'étape un peu intermédiaire, c'est-à-dire la classe moyenne bourgeoise.
Alors avant de se quitter, Bernard Thomasson, est-ce qu'il y a une anecdote historique qui vous a particulièrement interpellé, étonné?
Toutes.
Mais il y a une belle histoire sur la seule meunière et on va essayer de la résumer assez vite parce qu'il y a une belle histoire d'amour qui se cache derrière. C'est une histoire d'amour clandestine.
Alors ça, c'est fin du 19e, 1886, Georges Boulanger, on le connaît tous, ministre de la guerre en France, qui a été limogé à Clermont-Ferrand. Il voulait un peu faire tomber le pouvoir, donc il a eu des gros problèmes. On l'a envoyé à Clermont-Ferrand et là, il tombe amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Marguerite. Et pour qu'on ne le sache pas, parce que l'homme était quand même marié, les deux tourtereaux se sont retrouvés dans une auberge qui était tenue par Marie Quinton et qui a écrit un livre quelques temps après, en 95, je crois, le livre est sorti, 1895, qui s'appelle Le journal de la belle meunière. Et elle s'appelait belle meunière parce qu'en fait, son auberge est un ancien moulin. Et donc, elle a transformé ça en auberge. Et les deux s'aimaient là. Et elle avait inventé, dit-on, ce plat de la sole meunière. Donc, la sole simplement farinée et ensuite rissolée. Donc, c'est assez rigolo de voir qu'une meunière inventait ce plat, la sole, pour un boulanger.
Petite réaction quand même de notre chef du jour, Philippe Emmanuelli. La sole meunière, c'est facile à réaliser, ça?
Oui, c'est très simple. Je crois qu'il l'est. Bernard l'a...
Oui, mais quoi, on prend notre filet de sole, quoi, on farine?
La sole entière,
très importante de la cuire avec les arêtes. Ah oui, très important.
Et on enlève le pyjama gris, on n'enlève pas le pyjama blanc. Voilà.
D'accord. On farine tout ça?
On la passe à la poêle.
Tout simplement.
En du beurre.
Beurre.
Important, et c'est un
beurre noisette, un peu noisette et citron.
Oui.
Citron.
Ouais, citron. Citron après, peut-être on peut mettre le citron.
Il faut que ça fasse le fameux beurre meunière, c'est-à-dire ce beurre citronné et légèrement noisetté qu'on vient remettre.
Mais vous mettez votre citron quand, Carlo?
À la fin.
Ah, vraiment, à la fin.
À la fin. Même à la limite, on peut le mettre dans la poêle quand on a sorti le poisson.
J'ai faim, Bernard Thomasson, et vous?
Mais moi, j'ai toujours faim. Alors, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'écrivais des recettes avec Thierry... Alors, Thierry, c'est le spécialiste des mets, évidemment.
Thierry Marx, je suis un peu amoureux
des mots. Donc, on a marié nos compétences, si on peut dire, entre les mets et les mots. Et à chaque fois, j'avais envie de faire le plat dans la foulée en me disant « Oh là là, je me ferais bien une choucroute ce soir. Si je mets une petite quiche lorraine, pourquoi pas ?» Non, c'est formidable.
La choucroute originaire de Chine, vous l'expliquez dans ce livre.
Pas la choucroute, le chou.
Le chou fermenté.
Parce qu'il paraît que les Chinois auraient, par un jour de grande tempête, planqué leur chou sous la neige pour aller se mettre à l'abri. Ils sont revenus quelques heures ou quelques jours après. Le chou était fermenté. Ça, c'est
comme
la tradition.
Comme le kimchi, les Coréens. Voilà.
Et après, dans tout. C'est revenu avec les invasions des Huns et puis des autres aussi vers l'Europe centrale. et c'est arrivé en Allemagne et en Alzace. C'est un livre où il y a plein d'anecdotes rigolotes et on apprend vraiment plein de trucs.
Oui, c'est vraiment très très chouette. Ça se lit d'une traite et puis tout est ponctué.
D'histoire de la cuisine, Bernard, j'ai vraiment.
Je vous l'offre, Carlo. Ça s'appelle L'Histoire à la carte. Allez, par vous, Bernard Thomasson et Thierry Marx. C'était publié aux éditions de La Martinière. Et puis, pour les plus curieux, on peut découvrir votre émission sur France Info le dimanche à 18h.
Oui, 17h55 exactement.
Mais vous venez sur la première après, les amis. Vous écoutez Bernard et puis vous venez chez nous. Bernard, on va vous laisser parce que vous avez beaucoup de boulot.
On peut podcaster aussi.
Voilà. Merci beaucoup, Bernard Thomasson, et belle continuation
à
vous.
Merci, Sophie. Merci à tous.
Merci.
Au revoir, Carlo.
Au revoir.
À suivre, les amis, la cuisine de la mer. Rien que du très très bon avec Monsieur Philippe Emmanuelli, juste après Sylvia Bennett. Et la mer, ça tombe bien.
Ça marche.